Chapitre 15, le purgatoire. Commémoration de tous les fidèles défunts. Celui qui vient à moi, non, je ne les jetterai point dehors. Jean, chapitre 6, verset 37. Le corps de Jésus cloué sur la croix et son sang coulant de toutes ses plaies, à l'heure où il racheta le monde, sont sacramentellement présents sur l'autel. L'Église offre à la Majesté divine l'unique sacrifice du Sauveur. Soudain, une prière d'intercession interrompt l'acte d'offrande. Souvenez-vous aussi, Seigneur, de vos serviteurs et de vos servantes qui vous précédèrent avec le signe de la foi et qui dorment du sommeil de la paix. Dans combien de temps, je l'ignore, mais un jour, mon nom de baptême sera silencieusement prononcé à ce moment auguste de la liturgie. Fermement attaché à l'Église, ayant supplié le Seigneur de me pardonner mes fautes, je me serai endormi dans le sommeil de la paix parmi tous ceux qui reposent dans le Christ. Mes yeux s'ouvriront-ils aussitôt à la joyeuse lumière de la sainte gloire de l'immortel Père des cieux? Pourront-ils soutenir la pureté de son éclat qui mettra dans un jour impitoyable les scories dont je n'aurais pas eu le courage ou le temps de me purifier? Au vrai, je n'aurais mérité que les ténèbres extérieures, mais Jésus est capable de sauver de façon définitive ceux qui vont à Dieu par lui, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux, chapitre 7, verset 25. Je l'appellerai, et j'espère que me découvrant la dernière création de sa miséricorde, il daignera m'accorder le délai d'un ultime catéchuménat. Lui, du moins, tient ses promesses. Celui qui vient à moi, non, je ne le jetterai pas dehors. Cependant, la supplication unanime des fidèles de la terre me recommandera à la pitié divine, particulièrement en ce jour consacré à la prière pour les défunts. Dès la veille au soir, quantité de frères et sœurs inconnus chanteront le cantique où la très sainte Vierge proclame la longanimité de Dieu et ils encadreront le Magnificat des paroles mêmes du Sauveur. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et celui qui vient à moi, non, je ne le jetterai point dehors. La dévotion à Marie, le purgatoire, tout ce qui peut rassurer notre faiblesse, les chrétiens qui, au XVIe siècle, se sont séparés de l'Église mère, ont abandonné ces richesses du vieux patrimoine chrétien pour ne conserver que ce qui accroît notre crainte, la prédestination, l'enfer sans merci. Certes, à l'époque de cette lamentable sécession, des abus écœurants pouvaient expliquer bien des colères. Maintenant, dans une atmosphère assainie et détendue, nous avons de la peine à comprendre les critiques adressées à la vraie doctrine catholique sur le purgatoire. Quant à nous, tâchons de la bien connaître pour utiliser les leçons qu'elle comporte. Lorsque les conciles de Florence et de Trente, 15e et 16e siècle, définirent, délimitèrent le dogme du purgatoire, on dut constater que beaucoup d'opinions théologiques, précédemment églises, émise dans l'Église latine, débordait notablement l'objet même de la foi. L'autorité du magistère infaillible a solennellement affirmé. Premièrement, l'existence de peines purificatrices au-delà de cette vie. Deuxièmement, l'utilité des suffrages des fidèles pour les âmes des défunts. Rien de plus n'est imposé à notre croyance que ces deux vérités qui font partie de la foi traditionnelle de l'Église. On n'a pas manqué d'objecter que ce dogme n'est pas explicitement énoncé dans l'Écriture. Cette critique n'aurait de valeur que si les livres du Nouveau Testament avaient été rédigés en vue de codifier toute la doctrine de Jésus-Christ. La tradition n'ayant plus ensuite qu'à commenter ce texte écrit. Pareille conception est historiquement fausse. La doctrine de Jésus fut prêchée avant l'apparition des écrits qui ne fixèrent qu'une partie de la tradition orale primitive. et en ce qui concerne les épîtres, d'une manière tout à fait occasionnelle. Bien loin que la tradition ne puisse être que le développement d'un texte complet et définitif, c'est au contraire l'écriture qui ne renferme que des fragments de l'enseignement traditionnel. Aussi l'Église catholique ne fonde-t-elle pas sa foi seulement sur les livres saints, mais sur toute la prédication apostolique telle que la première génération chrétienne l'a entendue et transmise à la suivante. L'usage de prier pour les défunts était déjà en vigueur chez les Juifs avant la venue de notre Seigneur. Pas un mot de Jésus n'autorise à penser qu'il ait blâmé cette pratique. Deux passages de l'Évangile, en revanche, autorisent à conclure à l'existence d'un purgatoire. Dans plusieurs instructions paraboliques, le Sauveur exhorte ses disciples à se tenir prêts pour le jour de son retour, car c'est à une heure qu'ils ne savent pas que le Christ de l'homme doit venir. L'une de ces paraboles est celle des serviteurs coupables. Elle fait suite à l'histoire de l'intendant qui, au lieu de s'acquitter de ses fonctions, s'est querellé avec les gens de service et enivré avec les ivrognes du quartier. Son maître, survenant à l'improviste, l'a chassé et condamné à partager le sort des infidèles. Il s'agit ici, à n'en pas douter, de la réprobation définitive. Mais voici, dans le texte de saint Luc, chapitre 12, verset 47, une scène complémentaire. Deux serviteurs ont l'un et l'autre négligé d'accomplir leur travail. Le premier connaissait parfaitement la volonté de son maître et il l'a transgressé. Il recevra un grand nombre de coups. Le second ne connaissait pas bien la volonté de son maître. Il ignorait ses desseins. Jean, chapitre 15, verset 15. Et quoi qu'il ait agi de manière à être frappé, il recevra peu de coups. Ou ces paroles ne veulent rien dire, ou elles signifient que les sanctions d'outre-tombe ne sont pas uniformes mais proportionnées à la responsabilité du coupable et qu'il existe des peines moins graves que la peine éternelle. On peut citer encore la condamnation portée par Jésus contre les pharisiens qu'il avait accusé d'exorciser les démoniaques grâce à la puissance de l'esprit du mal. « C'est là, disait-il, un blasphème contre l'Esprit de Dieu. Or, tandis que les autres péchés peuvent être pardonnés, le blasphème contre l'Esprit ne sera pardonné ni en ce monde ni en l'autre. » Matthieu, chapitre 12, verset 32. À coup sûr, l'intention principale du Seigneur est de spécifier que si tous les péchés sont remis à ceux qui se repentent, l'aveuglement volontaire, le péché contre la lumière, excluant de lui-même tout repentir, ne pourra jamais être remis. Cependant, saint Augustin en conclut qu'il ne serait pas vrai de dire que quelque pécheur qui ne leur sera pardonné ni en ce siècle ni en un autre, s'il n'y avait aussi des pécheurs qui, n'ayant pas reçu le pardon en ce monde, l'obtiendront cependant dans l'autre. Toutefois, le fondement le plus solide en faveur de l'existence d'un purgatoire se trouve dans la tradition. Aussi loin qu'on puisse remonter dans les origines du christianisme, on voit l'Église prier pour les fidèles défunts. Cette prière serait sans objet s'il n'y a pas d'état intermédiaire entre la damnation et la vision béatifique. Puisque l'Église a toujours prié pour les défunts, c'est qu'elle a toujours cru que le sort de ses enfants peut n'être pas fixé définitivement à l'heure de leur trépas. Les plus anciens cimetières chrétiens de Rome remontent à la fin du 1er siècle. Or, parmi les fresques retrouvées sur les murs des catacombes, il en est qui représentent Daniel dans la fosse aux lions, les Hébreux passant la mer Rouge, David terrassant Goliath, les trois enfants dans la fournaise, autant de scènes bibliques qui ne dépeignent pas la béatitude des élus dans le ciel, mais donnent plutôt à penser que la victoire des défunts n'est pas complètement acquise. L'épigraphie funéraire n'est pas moins instructive. Témoin ces deux tombes du milieu du IIe siècle. Sur l'une, on relève l'inscription « Orate pro mi peccatore, priez pour moi pécheur ». Sur l'autre, « Qui legis ora pro eo ». Lecteur, prie pour moi. L'enseignement des premiers pères de l'Église concorde avec la pratique courante des fidèles. Chaque année, écrit Tertullien, nous présentons à Dieu des offrandes pour nos défunts. Ailleurs, employant un mot qui est passé dans le canon de la messe, il dit « Nous demandons pour eux le rafraîchissement et le repos ». À la même époque, saint Cyprien explique que dans l'autre monde, les âmes sont soumises à des traitements différents. Autre chose est d'attendre le pardon, autre chose de parvenir à la gloire. Les uns reçoivent immédiatement la récompense de leur foi et de leur vertu, les autres, autre chose est d'attendre le pardon, autre chose de parvenir à la gloire. Les uns reçoivent immédiatement la récompense de leur foi et de leur vertu, les autres doivent être débarrassés et purifiés de leurs péchés par une longue souffrance. À partir du IVe siècle, les témoignages ne se comptent plus. Saint Augustin, aussi catégorique sur l'existence des peines purificatrices de l'autre vie, qu'hésitant et réservé sur la nature de ces peines, ne doute pas de l'utilité des prières pour les morts. Relatant le décès de Sainte Monique, sa mère, il écrit « Dieu de mon cœur, mettant de côté pour un instant ce que ma mère fit de bien et dont je vous rends grâce avec joie, je vous implore présentement pour ses péchés. Remettez-lui ses dettes, Seigneur. Souvenez-vous qu'étant près de quitter cette terre, elle ne pensa pas à son corps et elle s'abstint de demander la pompe des funérailles. Tout ce qu'elle souhaita, ce fut qu'on fît mémoire d'elle à votre autel où elle savait que se dispense la victime sainte qui a effacé l'arrêt de notre condamnation. » En dehors des deux articles de foi que nous avons indiqués, nous ne possédons aucune autre certitude au sujet du purgatoire. Le croyant est libre d'accepter ou non les opinions étrangères à la tradition primitive, libre aussi de penser que certaines questions soulevées par la curiosité des hommes sont parfaitement insolubles. Telle est notamment celle de la durée du purgatoire. Notre façon de mesurer le temps n'a plus aucune signification en dehors de notre système solaire. La notion même de durée est toute relative. On sait par exemple que dans l'état de rêve, un songe long et compliqué ne dure effectivement qu'une ou deux secondes. Croyons-en, saint Pierre, un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Les mesures de Dieu ne sont pas les nôtres. On fera bien d'observer la même discrétion sur la nature des peines purificatrices. Le feu du purgatoire est une croyance fondée sur l'interprétation inexacte d'un texte de saint Paul et professé seulement dans l'Église latine. Jamais l'Église grecque n'a partagé cette opinion et le Concile de Florence ne lui en a pas fait reproche. L'expiation purificatrice étant infligée seulement à des âmes, il est malaisé de concevoir ce qu'est une souffrance sensible lorsque les organes des sens et les centres nerveux ont disparu. Du moins, nous n'en avons pas l'expérience. Aussi est-il assez téméraire de prétendre comparer les souffrances du purgatoire avec celles de la terre. Saint Thomas déclare, après saint Augustin, que la plus légère des peines du purgatoire dépasse toutes les peines que les hommes ressentent en ce monde. Au contraire, saint Bonaventure et Suarez estiment qu'il y a dans le purgatoire des peines moindres que les plus graves de la terre. La question cesse d'être insoluble si l'on s'en tient à la tradition primitive conservée par les pères orientaux qui parlent de la honte, de l'affliction, du chagrin, de la douleur des âmes du purgatoire. Sur ce plan, on ne saurait plus faire de difficulté d'admettre que les peines de ces âmes dépassent en intensité celles que nous éprouvons maintenant. Et puisque les épreuves présentes sont le moyen providentiel qui nous permet d'expier ici-bas nos péchés, on comprendrait mal que les peines du purgatoire fussent moins sévères que les peines de cette vie. L'âme qui sort de ce monde en état de grâce reconnaît que Dieu est son unique bien. De tout son élan, elle se porte vers lui. Mais si la conscience de son indignité la retient de ne pouvoir se jeter dans ses bras, elle en éprouve un déchirement infiniment douloureux. N'oublions pas qu'un certain nombre des âmes du purgatoire n'ont été délivrées du péché qu'à la dernière minute de leur épreuve terrestre. Toutes, cependant, voit que Dieu n'est pas satisfait. Ce terme est théologique et psychologique à la fois. Connaissant plus clairement la sainteté et la bonté de Dieu, elle découvre toute la gravité du péché. Elles en éprouvent une horreur insurmontable. Elles veulent avoir leur part des souffrances par lesquelles notre Sauveur a racheté le monde pécheur. Leur sort malheureux les afflige moins que le sentiment d'avoir si mal répondu à l'amour de Dieu. Elles ne peuvent pas se pardonner d'avoir négligé ou si maltraité un Dieu souverainement aimable. Quand Jacopone de Todi arrêtait les passants dans la rue pour leur crier en versant des torrents de larmes, « Jésus n'est pas aimé !» Il nous donne une idée de la douleur qui étreint les âmes captives à la pensée qu'elles n'ont pas assez aimé Dieu. Il y a cependant un autre aspect du purgatoire qu'on ne saurait passer sous silence. Nous sommes toujours dans le champ des croyances libres. Celles-ci se réclament toutefois de l'autorité de sainte Catherine de Gênes et de saint François de Sales. Si l'on ne perd pas de vue que les défunts pour qui l'Église demande le repos et la lumière sont des âmes en état de grâce, assurées de parvenir à la vision béatifique et complètement abandonnées à la volonté de Dieu, on admettra qu'en faisant leur apprentissage du ciel, elles connaissent des joies qui les aident à supporter leurs peines. Sainte Catherine de Gênes écrit « Je ne crois pas qu'il puisse se trouver de contentement comparable à celui qu'éprouve une âme en purgatoire, sauf celui que ressentent les saints en paradis. Étant admis que les souffrances du purgatoire sont plus graves que celles de la terre, il est normal en contrepartie que les joies du purgatoire l'emportent aussi sur les nôtres et par leur qualité et par leur intensité. Les âmes du purgatoire sont heureuses parce qu'elles sont sûres d'être sauvées. Sur terre, nous espérons notre salut de la miséricorde de Dieu. Dans le purgatoire, l'espérance a fait place à la certitude. Leur félicité n'est pas moins grande d'être désormais dans l'impossibilité de pécher. Et puis, elles aiment Dieu par-dessus tout, sans aucun retour d'égoïsme. Elles sont contentes de Dieu. Elles trouvent juste bon, nécessaire que le ciel ne puisse les accueillir tant qu'elles n'ont pas effacé en elles les derniers vestiges du péché. D'après le sentiment de saint Robert Bellarmin, si elles demandent à être délivrées de leurs peines, ce n'est pas afin de moins souffrir ou de ne plus souffrir, mais seulement afin de pouvoir louer Dieu davantage dans le ciel. Enfin, la prière du corps mystique, affluant vers elles du ciel et de la terre, leur apporte un vif soulagement. Contrait-on pour rien les suffrages incessants de l'Église de la terre, les fruits de toutes les messes dont elles ont leur part certaine. D'autre part, sainte Brigitte rapporte que la très sainte Vierge lui adressa ces paroles « Je suis la mère de Dieu et la mère de tous ceux qui sont en purgatoire, et mes prières adoucissent dans une certaine mesure les peines qu'ils endurent pour l'expiation de leurs péchés. » Qui s'étonnerait que les âmes dans l'attente du ciel puisse éprouver simultanément la douleur et la joie, devra se rappeler l'admirable aventure du bon larron. Ce pécheur endurait sur la croix les tortures les plus atroces, mais il souffrait à côté de Jésus et comme enveloppé dans sa sainte patience du Sauveur. Lorsqu'il entendit son divin compagnon de supplice lui dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », ses souffrances demeurèrent aussi aiguës, mais il goûtait non moins vivement le bonheur sans fin qu'il attendait. Les âmes du purgatoire répètent avec lui, « Si nous souffrons, c'est justice, nous recevons le digne salaire de nos actions. » Comme lui, elles se réfugient dans la miséricorde de Jésus, comme lui, elles savent qu'elles seront avec lui aujourd'hui. Tous les jours de l'au-delà ne forment qu'un immense aujourd'hui, dont les minutes sont autant de nouveaux actes d'amour. La doctrine catholique du purgatoire, on le voit, fait également droit à la justice et à la miséricorde de Dieu. Elle ne blesse en rien les exigences de la raison. Le Seigneur Jésus n'a pas déclaré en vain qu'il allait nous préparer une place afin que là où il sera, nous soyons aussi. Jean, chapitre 14, verset 2. Parce que le ciel est la consommation de l'unité qui par Jésus relie ses disciples au Père et les attache les uns aux autres, ne peut-il pas offrir à ceux qui ne vécurent pas sur terre dans cette charité parfaite le moyen d'en resserrer leurs liens ? Ce fut l'une de ses dernières prières parmi nous. Père, ceux que tu m'as donnés. Je veux que là où je serai, ils soient avec moi. » Jean, chapitre 17, verset 24. Fort de cette espérance, nous nous souvenons de nos défunts avec une grande douceur. Comme nous les avons assistés durant leur dernière maladie, nous continuons d'éveiller à leur chevet. Mais dorénavant, nous sommes certains que leurs souffrances sont réellement allégées par nos prières. Naguère, nous les voyions décliner peu à peu. Maintenant, nous savons qu'ils avancent rapidement vers le salut. Tandis qu'ils se dégagent progressivement de leur défectuosité, ils s'élèvent dans l'amour de Dieu. Nous suivons cette transformation qui leur rend toute leur beauté et cette ascension qui les rapproche de la sainteté. Chaque fois que nous communions au sacrifice du Sauveur, le contact se fait plus étroit entre nous et nos chers disparus qui reposent dans le Christ. Prions aujourd'hui pour tous les fidèles défunts. Le Seigneur nous demande ce témoignage de charité fraternelle. J'étais en prison et vous m'avez visité. Si nos suffrages et nos faibles mérites les mettent plutôt en mesure de glorifier Dieu dans le ciel, nous aurons notre part de cet hommage rendu à sa gloire. Enfin, en pensant souvent aux âmes qui attendent dans le vestibule du ciel, nous respirerons dans l'atmosphère purifiante où elles se sanctifient. Nous devancerons les sanctions d'outre-tombe en vivant déjà de leur vie, qui est une vie d'oraison et de réparation. Comme elles, nous détesterons le péché. Nous expierons courageusement nos fautes. Nous nous abandonnerons filialement à la volonté de Dieu. Sainte Catherine de Gênes termine son traité sur ces mots. Comprenons bien que lorsque Dieu, qui est très bon et très grand, a entrepris d'attirer une âme à lui, il anéantit en elle tout ce qu'il y a d'humain. Demandons au Seigneur de commencer dès maintenant son ouvrage en nous vidant de nous-mêmes pour nous transfigurer en lui.